Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Nous sommes mardi 27 septembre 2022. Vous êtes bien sur la radio Inza Magate Kakawe. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'écoute de ce journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. Le docteur Christophe Sahabo et deux autres actionnaires de Kira Hospital ont comparu aujourd'hui devant le parquet de Muha en mairie de Bujumbura. Maître Gustave Niyonzima, qui suit de près le dossier de Kira Hospital, pense que ce tribunal n'est pas compétent dans cette affaire. Il craint une volonté d'annuler les décisions de la dernière Assemblée Générale des Actionnaires. Et puis un officier militaire de l'armée burundaise en mission en République démocratique du Congo vient d'être rapatrié et mis aux arrêts. Il aurait donné des ordres qui ont causé du tort du côté des militaires burundais de la même mission. Enfin, le 27 septembre, c'est la journée internationale du tourisme, un secteur qui est aux abois au Burundi, selon le constat de l'ONG locale, Parsem. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Trois actionnaires d'Okila Hospital qui sont encore au Burundi, parmi lesquels le docteur Christophe Sahabo, incarcéré dans la prison de Mbimba, ont comparu ce mardi 27 septembre devant le parquet de Muha, mairie de Bujumbura. Ils ont été auditionnés sur la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires du 8 septembre 2022 par visioconférence. Selon Maître Gustave Niyonzima, cette interpellation viserait à invalider les conclusions de cette Assemblée générale. Selon cet avocat, le parquet de Muha n'est même pas compétent dans ce dossier qui devrait plutôt être traité par le tribunal du commerce. On l'écoute.
Tous sont convoqués pour être auditionnés sur la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 8 septembre 2022 et à l'issue de laquelle un procès verbal a été authentifié le 14 septembre 2022 chez le notaire Didas Rudaragi. Alors, j'aimerais vous informer que les deux actionnaires Espérance Baranise et Claver Manok viennent de subir plus d'une semaine des menaces de terrorisme à leur égard par des services nationaux de renseignement. Et à la tête se trouve le tristement célèbre Matthias Joseph Niyonzima alias Kazungu, connu pour les enlèvements, les assassinats ciblés. Juridiquement éteint, le dossier qui a hospitaux, c'est un dossier qui reflète une affaire commerciale entre actionnaires. Même la tenue de cette assemblée ayant eu lieu le 8, c'est une affaire commerciale entre actionnaires. Ce n'est pas de l'apanage et de la compétence du parquet Muha, loin s'en faut. C'est de la compétence du tribunal de commerce de Bujumbura qui a cette prérogative et ce pouvoir de connaître cette affaire commerciale entre actionnaires. Et aussi le tribunal le fait sur base d'un acte introductif d'instance qui est fait par l'un des actionnaires pour que le tribunal de commerce tranche afin qu'il y ait la stabilité et l'harmonie entre actionnaires. Ce n'est pas de la compétence du parquet Muha. Ça, c'est une violation flagrante. Donc, on en tire la conclusion que le dossier d'Okira Hospital est politique et non judiciaire. Autre angle d'absurdité juridique réside dans le fait que tous sont convoqués sans leur avocat conseil, en violation flagrante des articles 10 alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale. Ils ont même le droit de garder le silence en l'absence de leurs avocats. Mais le parquet Muha a préféré violer ostentatoirement la loi en les convoquant. Qu'est-ce qui est derrière dans tout ça? C'est pour invalider le procès verbal de la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires du 8 septembre 2022.
Et nous avons appris que dans l'après-midi de ce mardi, le frère du docteur Christophe Sahabo, Étienne Sahabo, et son avocat Sandra Ndaizeye ont aussi comparu devant le même tribunal. Un officier de l'armée burundaise en détachement en République démocratique du Congo a été rapatrié la nuit de dimanche et mis aux arrêts au compte du bataillon de la police militaire. Il serait poursuivi pour des ordres qu'il aurait donnés et qui auraient causé beaucoup de pertes du côté des militaires burundais. Plus de détails avec Eddy Claude Nininahazwe.
Cet officier en garde à vue au camp bataillon police et militaire est du grade de major. Il faisait partie du contingent burundais en détachement de combat en République démocratique du Congo. Les informations que nous détenons de certains militaires indiquent qu'il a été manu militari rapatrié du Congo la nuit de dimanche à lundi pour dire qu'il vient de passer sa deuxième nuitée au cachot du bataillon police et militaire. Les mêmes sources révèlent en outre que le convoi qui l'a rapatrié, cet officier a également rapatrié 8 blessés qui sont en train d'être soignés à l'hôpital militaire de Kamenge. Ces militaires ont été blessés lors des combats au Congo dans la province du Sud de Kivu qui les ont opposés aux combattants du mouvement FNL d'Aloïse Nzabamema et du mouvement Red Tabara. Les militaires et miliciens Mbonerakure qui ont péri dans ces combats sont estimés à plus d'une dizaine selon toujours les mêmes sources. Des sources de la radio parmi les militaires œuvrant dans le service des renseignements militaires G2 qui opèrent étroitement avec la police militaire indiquent que cet officier serait poursuivi parce que les ordres qu'il aurait donnés à ses subalternes auraient été à l'origine des pertes énormes qu'ils ont eues sur le terrain de combat. L'un de ces militaires s'inquiète d'autant plus que cet officier pourrait être victime de torture et plaide pour qu'il soit entendu pour l'auditorat militaire afin qu'il puisse se justifier sur toutes ces accusations. À la rédaction de la radio Inzamba, nous n'avons pas encore eu la version du colonel Floribert Viereke, porte-parole de l'armée, pour qu'il puisse apporter la lumière sur les révélations de ces militaires.
Non à l'impunité des crimes de viol, cri du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Ce mouvement réclame justice pour une élève de l'école fondamentale de Nyangunzu, dans la province de Mwaro. Le directeur de cette école, prise en flagrant délit de viol sur cet élève le 15 septembre dernier, a été placé en garde à vue. Mais le fait que ce responsable n'a pas encore été présenté à un juge inquiète le mouvement Inamahoro. On écoute Marie-Louise Barichako, présidente de ce mouvement.
Eric Muyangayanga, directeur de l'école fondamentale de Nyangunzu, devrait être jugé sans tarder. Le viol des élèves mineurs dans les écoles par leurs éducateurs, enseignants ou directeurs n'est pas chose nouvelle au Burundi. C'est devenu une pratique parce que ce crime, comme bien d'autres crimes, pourtant si bien connus de tous, reste souvent impuni. Voilà, notre problème, c'est l'impunité. Ce que le mouvement Inamahoro, comme bien d'autres, attend impatiemment, c'est cette justice que scande si haut et fort Son Excellence Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye au Burundi et devant les nations, mais que les Burundais ne voient toujours pas se matérialiser. Son directeur a été pris en flagrant délit. Quel dossier prépare-t-on encore pendant si longtemps pour pouvoir l'amener devant la justice? Il y a deux circonstances aggravantes dans ce dossier. Premièrement, cet homme est éducateur. Il est directeur d'une école. Ensuite, il est dirigeant de cette école où il doit inspirer autorité, être un exemple de moralité. Nous demandons donc instamment que justice soit faite avec diligence et sévérité pour que l'enfant puisse être rétabli dans ses droits, qu'elle se sente sécurisée et protégée. C'est absolument important et c'est le devoir des dirigeants de s'assurer que cela est bien fait et rapidement.
Et un garçon de 12 ans de la colline Kilema de la zone urbaine de Kayanza est admis à l'hôpital de référence de Kayanza depuis ce dimanche. C'est suite à des coups de bâton reçus de la part de son père jusqu'à lui causer une fracture au niveau du bras. Les défenseurs des droits des enfants déplorent le comportement de son parent et demandent que justice soit faite. Des détails avec Karine Doussabé.
Selon les informations en provenance de la sous-colline Bugarama, colline Kilema de la zone urbaine de Kayanza, Cyprien Minani, le père de l'enfant, a confié ses habits à l'enfant afin d'en faire la lessive. Mais à son retour à la maison, il a trouvé que l'enfant n'avait pas à exécuter la tâche qui lui avait été ordonnée, ce qui l'a beaucoup énervé. Puis, ayant voulu le punir, l'enfant a tenté d'engager un combat avec le père et ce dernier lui a administré des coups de bâton causant la fracture au niveau de l'un de ses bras. L'enfant a été par la suite évacué vers l'hôpital de référence de Kayanza où il subit des soins médicaux. Les défenseurs des droits des enfants à Kayanza, de même que les administratifs locaux, déplorent le comportement de ce parent et de tous ceux qui témoignent de pareils agissements. Ils trouvent normal que des enfants fautifs soient punis mais sans leur causer des sévices corporels. Ils invitent par conséquent les parents à créer un espace de dialogue avec les enfants fautifs de nature à les redresser et partant les erreurs commises ne seront plus répétées. S'agissant de la justice, les défenseurs des droits des enfants à Kayanza demandent que ce parent soit puni conformément à la loi afin que les droits des enfants restent respectés.
Restons dans la province de Kayanza pour vous dire qu'une fille de 23 ans originaire de la colline Karulusi en commune Gatara est détenue depuis dimanche, passée au cachot de la police judiciaire dans cette même commune. À l'origine, elle est accusée d'avoir tué un nouveau-né qu'elle avait mis au monde, si bien que le corps sans vie de l'enfant a été découvert là où il l'avait jeté. L'administration communale conseille aux jeunes filles d'éviter les grossesses non désirées et les invite plutôt à saisir la justice. S'il advient qu'à l'une ou l'autre mette au monde un enfant dont le père refuse de reconnaître, vous saurez qu'une peine criminelle à perpétuité est prévue par la loi à l'endroit des filles majeures, auteurs d'infanticide prémédité.
Inzamba.
C'est un bras de fer entre l'administratif de Nyanzalake et la gouverneure de Makamba d'un côté et le conseil communal et le parti CNDD-FDD de l'autre dans la destitution des administratifs à la base. Les deux derniers sont opposés au limogeage d'Emmanuel Halimenshi, chef de la zone Kazilabageni. On fait le point avec Bella Mugisha.
Ce bras de fer entre ces deux autorités administratives d'une part et le conseil communal de Nyanzalake ne date pas d'aujourd'hui, mais il s'est accentué ce dimanche dernier. Selon des sources au sein des membres du conseil communal et des militants du CNDD-FDD, l'administratrice de la commune Nyanzalake, Marie-Gorette Ilamunda, en collaboration avec la gouverneure provinciale Françoise Ngozila-Zana, ont proposé le limogeage d'Emmanuel Halimenshi, chef de zone Kazilabageni, chose que le conseil communal a rejetée. Selon les membres de ce conseil communal de Nyanzalake, Emmanuel Halimenshi serait victime de sa position au sein de l'église Eusebou, dont l'administrateur communal fait aussi partie au conflit. Marie-Gorette Ilamunda n'aurait pas apprécié sa façon de résoudre ce conflit qui divise l'église Eusebou. Une autre source de conflit s'avère être un proche de la gouverneure de province Makamba, Françoise Ngozila-Zana, qui veut s'attribuer une propriété foncière dans la zone Kazilabageni de la commune Nyanzalake, dont Emmanuel Halimenshi est chef de zone. Celui-ci a refusé de mettre son accord selon les sources à Kazilabageni. Les deux autorités communales et provinciales ont donc commencé à accuser Emmanuel Halimenshi d'insubordination. La gestion de ce conflit a suscité l'implication du conseil communal du parti CNDD-FDD à Nyanzalake. Dans une rencontre de samedi dernier, ce conseil communal du parti au pouvoir a soutenu que Emmanuel Halimenshi garde son poste de chef de zone Kazilabageni au grand dam de ses supérieurs hiérarchiques dans l'administration en province de Makamba.
Merci Bella Mugisha. L'institution des Bashinganai devrait être sauvegardée. C'est du moins l'une des recommandations faites par l'association SOS Torture dans son 50e numéro de bulletin de justice. Elle trouve que cette institution des Bashinganai assurait bien la cohésion et l'unité des Burundais en réglant des conflits pacifiquement. Cette association se dit opposée à la venue du système des notables collinaires qu'il considère comme un instrument du parti CNDD-FDD. Écoutez à ce propos Aimé Kwizera, il est chargé de la communication au sein de SOS Torture.
La nouvelle édition numéro 50 du bulletin de justice a été consacrée au plaidoyer en faveur de l'institution des Bashinganahe qui est menacée d'extinction au lendemain de l'élection des notables de colline et de quartier le 12 septembre dernier. On se rappelle que le ministre de l'Intérieur a déclaré que la prestation du serment de ses élus mettra fin à l'exercice des missions des Bashinganahe. En conséquence, des lamentations en rapport avec des irrégularités qui ont caractérisé ces élections ont été observées, car la plupart des candidats non membres du CNDD-FDD et ou qui ne sont pas leurs sympathisants ont été exclus. C'est pourquoi nous déplorons que le profil de ces notables élus dans les conditions de discrimination et qui représentent le gouvernement, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, est différent de celui d'Amushingana qui était investi après une longue période période d'observation et en se basant sur leurs valeurs comme la maturité, comme le sens de la vérité, comme l'intelligence lucide, comme le sens d'honneur et de la dignité, comme l'amour du travail et la capacité de subvenir à ses besoins, comme le sens de la justice, comme le sens de la responsabilité sociale. L'abbé Adrien Habona a défini Lumshinganar comme un homme responsable du bon ordre, de la tranquillité, de la vérité et de la paix dans son milieu. Et cela, non pas en vertu d'un pouvoir administrativement attribué, mais de par son être même, de par sa qualité de vie que la société voulait reconnaître en sa personne, en lui conférant une investiture. Nous attirons également l'attention de l'opinion sur le fait que ces notables sont élus dans un contexte de verrouillage de l'espace démocratique et des violations des droits humains aggravées par la crise du troisième mandat en 2015 et que ces derniers auront vraiment des difficultés à observer les principes d'objectivité et de neutralité respectés naturellement par l'institut de Bashinganar. Nous demandons en fait au gouvernement de se mettre à l'écoute de nombreuses voix qui s'élèvent pour relancer du dialogue politique ou pour renoncer particulièrement à l'extinction de l'institut de Bashinganar qui constitue le socle de l'unité de Burundi.
27 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale du tourisme. L'ONG locale Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités par SEM trouve qu'un chemin long reste à parcourir pour que le secteur du tourisme puisse être bien développé au Burundi afin de générer des dividendes dans les caisses de l'État. Faustin Ndikumana, il est directeur de l'ONG Parcelle.
Et malheureusement, les études récentes prouvent que le Burundi vraiment ne parvient pas à engranger des recettes suivantes provenant du secteur touristique. Les autres pays de la sous-région engagent plus de 500 millions de dollars, alors que le Burundi n'engage que moins de 5 millions de dollars. Vous comprenez qu'on est vraiment à la quête du peloton et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réformes. Normalement, comment est-ce que le tourisme devait être développé? Le tourisme est centré sur trois axes. D'abord, il y a le tourisme d'affaires qui nécessite un environnement des affaires favorables pour que les gens puissent venir faire des affaires dans un pays. Il y a le tourisme de loisirs qui nécessite l'aménagement des sites touristiques et par exemple, savoir organiser des activités de détente, des activités culturelles attrayantes. Et il y a aussi le tourisme des conférences, des grandes conférences internationales qui sont organisées dans un pays. Il y a des pays qui s'inspirent dans l'organisation des conférences internationales. Ça mobilise beaucoup de gens qui participent dans de tels événements. Mais aussi, il faut que tout cela soit... Il y a d'autres préalables comme l'image du pays. Il ne faut pas qu'un pays garde l'image d'un pays en instabilité politique où les violations des droits de l'homme sont devenues monnaie courante. Il faut qu'il y ait l'assainissement des relations diplomatiques entre le Burundi et d'autres pays. Pour qu'ils déjà choisissent de venir organiser des conférences chez vous, il faut que les relations diplomatiques entre le Burundi et les pays qui doivent participer dans ces conférences soient vraiment bien assainies. Et aussi, il faut avoir un marketing pour faire connaître le pays. Mais aussi, tout cela devait être contenu dans la stratégie nationale de développement du tourisme.
Et pour clore ce journal, le non-respect des délais et la mauvaise qualité de construction sur les centrales électriques Jiji et Mulembwe dans la province de Bururi inquiète le premier ministre Gervais Ndakobucha. Au cours de son déplacement sur place son lundi, il a déploré les fissures qui se manifestent sur les bétons construits. Il a ordonné la construction de ces bétons sur des lieux stratégiques. Il a également exprimé son regret par rapport au délai convenu à voir les travaux déjà réalisés. On l'écoute, il s'est exprimé sur la télévision nationale.
C'est vrai, les travaux avancent, mais nous constatons que compte tenu de la date de fin des travaux fixés en décembre 2023, ils n'y parviendront pas. Nous avons également constaté d'autres manquements, des constructions de béton qui présentent déjà des fissures. Nous leur avons instruit de refaire ces bétons, de retirer surtout le mélange du sable et de l'argile posée en dessous du béton. Plutôt, de construire le béton sur une roche qui peut consolider ce béton, surtout que c'est un lieu important qui servira de retenue des quantités importantes d'eau.
Kwari ahantu hakomeye cyane aho bazofatira amazi.
Et voilà, c'est par ici que nous terminons cette édition. Merci à vous tous, toutes, chères auditrices, auditeurs de la radio Izamagate Kakawe pour votre fidélité. Merci à la rédaction pour la production de ce journal. Vous étiez avec Alexandre Nyungeko à la présentation. Excellente soirée ou journée, suivant la position de votre coude. Au revoir et à la prochaine.